Bonjour Yves au micro de Divergence FM, très très heureux de vous retrouver pour 24 notes secondes. Une nouvelle émission de 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, probable, improbable, bonne, mauvaise, les petites images qui bougent sur les grands écrans, parfois un petit peu ailleurs. Et évidemment, nous nous efforçons de choisir le meilleur pour le public de Divergence FM, pour les auditeurs de Divergence FM et de 24 notes secondes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour en Russie. Mais rassurez-vous, on reviendra. Non, je plaisante, on peut y rester si on veut. Maintenant, c'est plus comme avant la Russie, donc nous allons égrener quelques thématiques russes avec quatre films américains. C'est comme ça, c'est souvent comme ça dans la musique de film. En tout cas, j'aimerais bien faire un jour peut-être une émission de musique de film russe à partir de films russes, mais ma foi, la production discographique soit est inexistante, soit m'est inconnue. Donc, et après, j'arrête les circonvolutions scrupuleuses, nous allons puiser dans le meilleur du cinéma américain des années 70 à 90 pour un portrait forcément biaisé de la Russie que nous allons commencer avec un film tourné en 1983, c'est-à-dire largement avant la chute du rideau. Pour ceux et celles qui s'en souviennent encore, un film tourné en 1983 qui s'appelait Gorky Park et qui était une adaptation d'un roman d'un auteur bien oublié, je le crains pour lui aujourd'hui, Martin Cruz Smith, qui s'était fait comme bien d'autres une spécialité de ces romans qui justement se passaient de l'autre côté du rideau de fer dont il nous offrait bien évidemment une vue relativement exclusive sans que on puisse apprécier ou pas la véracité de la chose. La seule chose dont nous étions sûrs, c'est que les films adaptés n'étaient pas tournés directement en Russie en 1983. Ça ne l'aurait pas fait comme l'on dit. J'ignore où Gorky Park a bien pu être tourné. Par contre, je sais qu'il réunissait quelques acteurs et actrices solides, puisque dans les rôles principaux, on retrouvait le beau William Hurt, on retrouvait le moins beau, mais tout aussi solide Lee Marvin, de ces grandes gueules du cinéma américain des années 70-80, tels que Robert Aldrich, par exemple, nous ont habitués à les voir. On retrouvait aussi dans un rôle un peu moins important Brian Dennehy, qui quelques années plus tard, si je me souviens bien, se fera largement connaître en étant le shérif qui pourchasse impitoyablement Sylvester Stallone alias Rambo dans Rambo 1 de Ted Kotcheff. Un très bon film, si, je vous assure, un très bon film et une musique signée de Jerry Goldsmith. Et puis donc dans ce générique prestigieux de Gorky Park, on trouvait aussi une fille, et alors là, je ne sais pas pourquoi, et maintenant, 30 ans plus tard, on peut le dire, pourquoi n'a-t-elle pas percé? Elle était absolument sublime, Johanna Pakula, c'était son nom, peut-être que ça l'a desservie, mais par contre, son physique aurait dû la servir, mais il en est parfois des destins d'actrice, comme de bien d'autres personnes normales, on perce ou pas, et pour Johanna Pakula, hélas, son nom ne vous dit rien, pas plus à moi maintenant, qu'hier, et donc elle est restée sinon comme l'unique interprète de ce film. En tout cas, elle n'a pas fait une grande carrière. Par contre, à la baguette, on retrouvait un compositeur qui, lui, fit ensuite une grande carrière. Alors, il avait déjà quelques films plus ou moins obscurs à son palmarès, notamment Star Trek 3 ou quelques films pour Disney, mais rien qui ne le préparait à obtenir ensuite l'immense succès qu'il connut notamment avec Titanic. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de James Horner. James Horner qui s'est beaucoup répété par la suite, mais qui avec Gorky Park, eh bien, nous avait offert une partition absolument magnifique. En tout cas, c'est mon sentiment, certainement l'une de ses plus originales. Alors je vous ai sélectionné le générique de fin de cette bande originale qui vous permettra d'apprécier plusieurs facettes du talent du DJ James. Camarade, tu es trop long. Oui, camarade, j'arrête. Allez, place à la musique. 24 notes secondes, Divergence FM, James Horner, Gorky Park. Thank you. La large et ô combien variée palette de James Horner pour un extrait, en tout cas le générique de fin de la bande originale de Gorky Park, un film tourné en 1983, dont je n'ai, je l'avoue, qu'un souvenir relativement vague. Il me semble qu'il était question de trafic d'hermine, mais oui, vous savez, ces petites bêtes. Bref, une époque de compromission avant la chute du rideau. On sait que tout ça a bien changé, bien entendu. Je plaisante. Ce jour dans 24 notes secondes, la Russie. Et nous allons rester quelque part entre avant et après le rideau de fer. Et nous allons rester à nouveau avec l'adaptation d'un roman d'un de ses auteurs qui, comme Martin Kruspitt, Smith s'était spécialisé dans l'évocation de la guerre froide, on l'appelait comme ça aussi, en l'espèce Tom Clancy, sans doute connu et peut-être même plus connu que le dénommé Smith, dont le cinéma et en l'espèce le cultissime John McTiernan adapta en 1990 le roman The Hunt for Red October, à la poursuite d'Octobre Rouge. Alors juste en deux mots, le pitch, on y voyait Sean Connery en commandant d'un sous-marin russe de fabrication révolutionnaire qui décidait de to defect, je ne sais pas comment on va dire en français, mais on va le trouver quand même, de trahir son pays pour rallier les États-Unis. Il avait en l'espèce l'aide d'Alec Baldwin, qui devait être agent de la CIA, du FBI, de NSA, d'une de ces 10 000 agences dont les États-Unis nous abreuvent, et les contribuables américains, donc, avec évidemment toutes les scènes d'action qu'on peut trouver dans un sous-marin. Le tout était classique, alors le tout avait quand même un souci, c'est que le roman avait été écrit et publié avant la chute du mur, tandis que le film, sorti en 1990, comme je vous l'ai dit, eh bien c'était juste après. Du coup, je m'en souviens, on voyait un petit encart au début, histoire de rappeler à ceux qui avaient une case en moins que tout ça se passait à l'époque où on pouvait encore quitter la Russie ignoblement communiste pour rallier le paradis libéral américain. Comment ça, je suis critique. John McTiernan, alors quelques petits mots quand même pour nos geeks et autres aficionados. C'est aussi le réalisateur de Die Hard, le premier, le seul, le vrai, de Predator avec Schwarzenegger, un chef-d'œuvre, et d'un autre chef-d'œuvre avec Schwarzenegger, The Last Action Hero. Non, je plaisantais, bien sûr. N'écrivez pas, je plaisantais. Bref, en tout cas, un réalisateur solide et qui livra un travail solide. Alors, il faut aimer les sous-marins, il faut aimer les ambiances marines, il faut aimer Sean Connery, mais qui n'aime pas Sean Connery, surtout avec une grande casque de cheveux blancs, comme il était beau, comme était belle aussi la musique de ce film signé du regretté Basil Poledouris. Alors, on va écouter le générique de ce film. Alors, si vraiment ça ne fait pas russe, alors je ne sais pas ce qui fait russe dans Divergence FM, camarade.
Вере, сердце, ты, ты прави.
Camarades, vous pouvez enlever képi et romper, s'il vous plaît, un extrait bande originale à la poursuite d'Octobre Jour, film John McTiernan, tourné en 1990 avec Sean Connery dans le rôle principal, une magistrale partition du regretté Basile Poledouris pour un de ses films d'action solide qui ne prenait pas encore pour des débiles dans les années 90, ma foi. On tournait ce genre de choses et la même année 90, coïncidence, dans 24 notre seconde, ce jour consacré un petit voyage musical dans la Russie des films américains. En 1990, eh bien, ce même Sean Connery, très occupé, tourna dans une autre adaptation d'un roman, d'un autre romancier très porté sur la guerre froide, peut-être certainement le plus grand romancier de la guerre froide, mais aussi un grand romancier tout court, ce qui n'est pas forcément le cas des autres, en l'espèce John le Carré, dont on vit à l'écran l'adaptation du roman La Maison Russie, qui racontait une histoire d'amour, disons relativement improbable, entre Sean Connery et Michelle Pfeiffer, qui incarnait une ménagère russe d'une manière à peu près aussi convaincante que si j'incarnais, je ne sais pas moi, Oscar Pretorius ou quelqu'un de ce genre. Ma foi, on passait un peu sur les conventions, on en retenait un film plutôt délicieux, surtout qu'aux côtés du couple vedette Sean Connery, Michelle Pfeiffer, on retrouvait quelques seconds rôles solides du cinéma américain, Roy Scheider, James Fox ou Klaus Maria Brandauer, qui n'était pas américain mais adopté par le cinéma américain. Et on retrouvait aussi, même s'il ne figure pas sur ma petite fiche, Ken Russell, dont peut-être certains ou certaines d'entre vous savent qu'il fut un des grands réalisateurs du cinéma anglais, pour le coup, des années 70-80. Et je me souviens, dans La Maison Russie, d'une scène très importante où Ken Russell nous apprenait quelque chose qui m'a toujours servi de leçon de vie, c'est que quand vous posez une question, vous donnez vous-même des réponses. Je vous laisse méditer là-dessus. On va écouter un petit extrait de la bande originale de ce film. Elle était signée de Jerry Goldsmith, l'un de nos préférés. Bref, un festival ce jour dans 24 nos secondes. Un extrait donc de la bande originale de The Russia House, ou presque, la Maison Russie en français. Une bande originale de Jerry Goldsmith, je l'ai déjà dit, sur Divergence FM. Le précieux apport de Branford Marsalis pour un extrait de la bande originale de La Maison Russie, un film de Fred Chepisi, je ne sais pas si je l'avais dit, tourné en 1990 avec Sean Connery et Michelle Pfeiffer dans les rôles principaux. Et nous étions en Russie quand même, il fallait le deviner, c'était à la Russie que nous consacrions bientôt cette émission de 24 nos secondes. Et nous allons terminer par écouter évidemment un dernier extrait musical, en l'espèce celle d'un film américain, mais tourné par notre bien français Jean-Jacques Annaud en 1990, dans les rôles principaux duquel on retrouvait, excusez du peu, Jude Law, Rachel Weisz, Ed Harris, Bob Hoskins et quelques autres. Bref, une super production hollywoodienne en anglais. anglais, ça s'appelait Enemy at the Gates. En français, ça s'appelait un peu plus logiquement Stalingrad, puisque ce film était une fresque consacrée à la bataille de Stalingrad qui opposa les forces russes à une coalition, puisqu'il y avait les Allemands, mais aussi les Roumains, les Italiens, les Hongrois, les Croates. J'ai tout ça sur ma petite fiche. De même que ma petite fiche m'apprend qu'entre le 17 juillet 1942 et le 2 février 1943, le redoutable hiver de 1942 à 1943, eh bien, ce sont pas moins de 750 000 soldats et de 250 000 civils, oui, 1 million de personnes qui moururent tout simplement pendant ce qui fut certainement à la fois la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale et aussi son basculement décisif qui vit les troupes soviétiques résister dans ce qui s'appelait à l'époque Stalingrad et dans ce qui s'appelle aujourd'hui Volgograd, parce que Staline, ça le fait plus ou moins maintenant. Jean-Jacques Haneau avait choisi, inspiré paraît-il de faits réels, d'évoquer cette bataille de Stalingrad par une bataille entre deux tireurs d'élite, l'un russe, interprété par Jude Law, l'autre allemand, interprété par Ed Harris. Ma foi, le tout était bienvenu, fort impressionnant. La musique était signée de James Horner, déjà évoqué, vous vous en souvenez, au début de cette émission, mais qui en quelques années avait gagné du galon, puisqu'on le voyait à la tête donc d'une superproduction qui était aussi musicalement une superproduction. Je vous laisse en juger par la force orchestrale de cette partition. Un extrait donc de la bande originale de Stalingrad, Enemy at the Gates, 24 notes secondes, James Horner. Camarade président, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. C'est bien dommage pour vous, camarade pas président. Au revoir, bye bye, dat vidania.